Alors bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, on est vendredi et c'est un soir d'études. Alors on va commencer par prier. Chérie, tu veux prier pour nous?
Seigneur Jésus, nous te remercions parce que nous croyons que tu es avec nous et que tu partages toutes choses avec nous et ta parole, mon Dieu, que notre esprit soit bien éveillé pour bien comprendre et que nous puissions le mettre en pratique au mieux dans notre vie chaque jour. Merci Seigneur parce que tu bénis ton serviteur au nom de Jésus. Amen.
Amen. Oui, alors comme je vous disais, c'est une étude, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui va édifier votre foi ou qui va vous remettre dans le droit chemin ou qui va vous exhorter ou non, c'est une étude. Alors je vais commencer par une lecture dans les Écritures, dans Jean 16, verset 12. C'est Jésus qui parle et qui dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc ça veut dire que quand il était sur terre, il n'a pas tout dit. C'est clair? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur, ou le Saint-Esprit, le consolateur, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous a pas conduits dans toute la vérité, mais il a dit, quand il était sur terre, des choses que les gens qui étaient là pouvaient entendre. Ensuite, le Saint-Esprit a révélé d'autres choses. D'accord? Et il continue. Car il ne parlera pas de lui-même, donc le Saint-Esprit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Voilà, nous on comprend ce que ça veut dire parce que bon, l'histoire est arrivée, les disciples ils n'ont pas compris ce qu'ils voulaient dire par là, mais ensuite leur esprit a été ouvert par le Saint-Esprit de vérité. Et ce soir, je tiens à vous dire tout de suite, je ne cherche pas à faire de la pub pour une église ou pour une autre. Est-ce que j'ai déjà cherché à faire de la pub pour notre église? Non, ce n'est pas pour faire de la pub pour une autre. Hein? Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est d'informer. Mon but, c'est de dire ce que le Seigneur me montre sur mon cheminement, sur ma vie, pendant ma vie, ce que je trouve. Et puis, je ne veux pas le garder pour moi parce que je me sentirais coupable. Et alors, je le dis. Alors, vous me croyez ou pas, peu importe. Moi, je sais où j'en suis. Je sais que je ne suis pas en train d'essayer de faire de la pub pour une religion quelconque, qu'elle soit catholique, protestante, baptiste, pentecôtiste, branhamiste, mormoniste, tout ce que vous voulez. Je fais de la pub pour personne. Simplement, je parle de choses, de faits, de réalités, de choses qui existent. Et je vous instruis parce que ces choses-là que vous allez entendre ce soir, vous risquez pas de les entendre dans une église. Donc, voilà. Ici, vous les entendrez. Ce message de ce soir, c'est la suite des cinq précédents. Et si vous ne les avez pas écoutés, vous qui êtes sur Internet, allez les écouter avant celui-là parce que sinon, vous n'allez rien comprendre du pourquoi je vous entretiens sur ce sujet. Alors, cela dit, on va commencer parce qu'on a du travail ce soir. Donc, je vous rappelle que la dernière fois, vendredi passé, je vous disais que j'allais vous entretenir au sujet de Joseph Smith, ce prophète américain, et vous dire des choses autres que des critiques qu'on peut lire sur Internet à gauche, à droite. Comme j'aime pas trop le bricolage, eh bien, on va aller dans les détails. On va pas aller dans trop, trop de détails, mais quand même, il y a certaines choses qui sont importantes. Il faut savoir que Joseph Smith a grandi dans une ferme familiale et il était presque exclusivement que sous l'influence de sa famille. La famille, c'est une famille de bosseurs et Joseph a appris à travailler très dur et très tôt. Il a aussi appris à penser de manière autonome. Ses parents lui ont montré comment il fallait faire, à se servir des écrits, à se servir, pardon, à servir les autres et à aimer la liberté. Et tout ça, c'était déjà l'héritage de cinq générations. Il y a eu cinq générations de Smith qui ont vécu à Topsfield, au nord de Boston. Et le premier Smith qui est arrivé aux États-Unis, enfin, aux États-Unis, là-bas, en Amérique, s'appelait Robert, Robert Smith. C'était l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Joseph, le prophète. Et il est arrivé en Amérique en 1638. Alors, si vous vous demandez pourquoi je parle de Joseph Smith, le prophète, ben, vous n'avez qu'à écouter les prédications des autres vendredis et vous comprendrez pourquoi j'en parle. Je ne veux pas vous répéter encore toujours les mêmes choses. Tout ça, c'est sur Internet. Alors, on va sauter les générations et on va en arriver au grand-père de Joseph, qui, lui, est né en 1744. Et il est devenu membre du culte principal de la Nouvelle-Angleterre. Et le culte principal, c'était les congrégationalistes. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, ben, faites un petit effort. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez congrégationaliste, et puis vous allez savoir ce que c'était que cette dénomination chrétienne. Alors, au bout d'un moment, le grand-papa est devenu un peu sceptique au sujet vis-à-vis des religions organisées. Dans son esprit de paysan, pratique, de la ferme, les enseignements des églises officielles ne pouvaient pas se concilier avec les Écritures et le bon sens. Ça ne marchait pas. Il trouvait que ça ne marchait pas. Sa pensée, elle était un peu celle, si vous voulez, des universalistes. Si vous ne savez pas ce que c'est les universalistes, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, vous avez tout sur Wikipédia, ou dans n'importe quel bon dictionnaire, ou dans les encyclopédies, vous allez chercher qu'est-ce que c'est les universalistes. Les universalistes croyaient que Jésus-Christ est Dieu, il est Dieu, un Dieu d'amour, qui sauve tous ses enfants, ne perdra aucun des siens. Ils croyaient que Dieu s'intéressait plus à sauver les gens qu'à détruire l'humanité ici-bas et ensuite en enfer. Il croyait que la vie continuait après la mort et il y a tout un courrier qui nous reste de lui. Il y a des lettres qu'il envoyait à sa famille et voilà ce qu'il écrivait. Donc voilà ce qu'écrivait le grand-père de Joseph Smith dans une de ses lettres. Il disait « L'âme est immortelle ». Il s'adressait à sa famille, il disait « Faites tout pour Dieu d'une manière sérieuse. Quand vous pensez à lui, quand vous parlez de lui, quand vous le priez, ou que vous abordez d'une manière quelconque sa grande majesté, faites-le avec sérieux. » Pour ce qui est de la religion, il écrivait « Étudiez la nature de la religion et voyez si elle consiste en des formalités extérieures ou en la parure intérieure cachée dans le cœur. » Il était éveillé quand même, hein, le grand-père, les années 1700. Alors il écrivait, « J'ai la certitude que mon sauveur, donc il se savait sauver, il se croyait sauvé, il croyait que Jésus-Christ était son sauveur, il dit, « J'ai la certitude que mon sauveur, le Christ, est parfait et ne me fera jamais défaut. Dans aucune circonstance, je lui confie votre âme, votre cœur, vos biens, votre nom, votre renom, vos vies, votre mort et tout, et moi-même, en attendant le moment où il transformera le corps de mon humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. » Ça, c'était un grand-père. Hein? Si ce n'est pas chrétien, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et il a prédit et écrit que Dieu allait susciter une branche de sa famille qui serait d'un grand avantage pour l'humanité. Je cite. Alors, de nombreuses années plus tard, son fils, qui s'appelait Joseph, c'était pas Joseph le prophète, c'était le fils du grand-père de Joseph, il s'appelait aussi Joseph, donc le fils du grand-père de Joseph, il lui a remis un livre de Mormon récemment publié par donc son petit-fils. Vous me suivez ? C'est pas trop compliqué. Et ça l'a beaucoup intéressé. Et le prophète Joseph Smith écrit « Mon grand-père croyait absolument au livre de Mormon. Il l'a lu presque en entier. » Pourquoi presque en entier ? Parce que le livre de Mormon, c'est quand même un livre qui fait plus de 600 pages. Et puis, il n'a pas le temps de lire. Il est mort en entier. Il est mort avant. Le grand-père est mort en 1830. Il était absolument certain que son fils était le prophète longtemps attendu, qui allait mettre de l'ordre dans les choses qui se disaient, qui se faisaient, qui se pratiquaient dans les diverses religions. Je vous rappelle qu'il y avait eu la Constitution américaine qui laissait la liberté religieuse, ce qui fait qu'il y avait la liberté, ça a déclenché toutes sortes de choses, et il y avait du bon et du mauvais. Et il était sûr que Joseph Smith, son petit-fils, avait inauguré une nouvelle ère religieuse. Alors, on ne sait pas grand-chose sur la famille du côté de la maman de Joseph Smith. C'était la famille Mack, M-A-C-K. On sait que c'était une lignée d'hommes d'église venant d'Écosse. La famille Mack est arrivée en Amérique en 1669. Et on sait que, parmi tous ces gens, il y en a un qui s'appelait Solomon Mack, qui est né en 1732, et il a été engagé comme apprenti fermier à l'âge de 4 ans. C'était dur la vie, hein? C'était pas comme... hein? Et il est resté apprenti jusqu'à l'âge de 21 ans dans cette ferme. Il était traité comme une propriété du fermier, mais pas du tout... élevé ou instruit de rien du tout et considéré comme une sorte d'esclave, si vous voulez. Et jamais on ne lui parla de religion, jamais. Solomon s'est marié avec une femme congrégationaliste du nom de Lydia Gates, G-A-T-E-S. Et elle était institutrice, donc différent de niveau intellectuel, social. Elle était institutrice. Et un de leurs enfants, et un de leurs enfants, la cadette, elle s'appelait Lucie. Et c'est elle qui est devenue la maman de Joseph Smith, connu comme le prophète, qui a, comme disent les gens, créé l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Donc, la maman de Joseph s'appelait Lucie. Finalement, Solomon Mack s'est converti. Et il a passé le reste de sa vie à témoigner de sa conversion. Il est mort en 1820. Lucy Mack, la cadette donc de Solomon et Lydia Mack, donc Lucy, épousa Joseph Smith, le père. Le père de Joseph Smith, le prophète. Ils ont appelé leur fils du nom du père. Ils ont dû avoir des problèmes, parce que c'est un peu comme ici, quand on appelle Michel, ben, il y a ma femme qui se retourne, ou moi. Donc, je pense qu'il devait appeler l'un des deux Joe, ou quelque chose comme ça, pour les différencier. Ils se sont mariés le 24 janvier 1796. Ils ont eu trois enfants, et puis bon, voilà. Et puis, le 23 décembre 1805, ils ont eu un fils, et ils l'ont nommé Joseph. C'est de lui dont on va parler principalement dans les 2-3 semaines encore qui viennent. Et puis après, on arrêtera. Simplement, je voulais faire une étude sur cette église et sur leurs croyances et sur les choses que moi aussi, je crois. Je ne crois pas tout ce qu'ils croient, mais sur beaucoup de choses qu'ils croient. Joseph Smith, père, et Lucie ont été des parents très bien. Ils sont efforcés d'enseigner les principes religieux à leurs enfants. Mais le papa de Joseph Smith était comme son père, c'est-à-dire qu'il était méfiant envers les églises officielles, mais il a toujours eu une très grande foi, un très grand respect, une très grande foi en Dieu. Quand Joseph Smith a eu 7 ans, il a attrapé la typhoïde. Il y a eu une épidémie et beaucoup de gens sont morts. Et lui, il a dû subir 4 opérations chirurgicales, dont une très grave au tibia. Et je ne vous dis pas, à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésiant. Alors, on saoulait les gens au whisky, ou alors, voilà, mais lui, comme c'est un gamin, donc il a dû serrer un morceau de bois entre ses dents pendant l'opération. Ils l'ont ouvert la jambe, raclé, tout ça fait une horreur, C'était une époque, merci Seigneur, qu'on vit du bon côté de la planète et à la bonne époque, ici en France, hein. Les Smith ont souvent déménagé pour trouver une ferme qui puisse les faire vivre relativement confortablement. Et finalement, en 1816, ils se sont établis à Palmyra, dans le comté d'Ontario. Et bon, c'est un raccourci. Hein, c'est un raccourci pour situer un peu quelle sorte de famille était la famille de Joseph Smith. C'était donc des fermiers, des gens qui étaient des gens qui travaillaient dur. Voilà, c'était pas la vie facile. Joseph Smith a écrit qu'il est allé très peu à l'école, qu'on lui a juste appris à lire, à écrire, on lui a appris les règles de base de l'arithmétique, et c'est là tout ce qu'il avait comme bagage intellectuel. Alors il faut savoir que dans l'État de New York, dans ces années-là, dans les années 1820-1830, il y a eu un grand réveil parce qu'il y avait ce qu'on appelle des revivalistes qui parcouraient les campagnes et les villes. C'était des évangélistes, des pasteurs qui allaient pour prêcher la bonne parole. Et puis, ils prêchaient dans les campagnes, ils prêchaient dans les salles, ils prêchaient dans les sous-tentes, enfin. C'était des... Et alors, il y avait de tout. Il y avait de tout. Et puis, ils se condamnaient mutuellement les uns les autres. Voilà. Et alors, je vais vous lire maintenant ce que Joseph Smith dit lui-même. Pourquoi est-ce que je vais vous le raconter alors qu'il l'a écrit? Je vais simplement vous le lire parce que vous pourriez le trouver aussi. Mais comme je sais que la plupart des chrétiens déjà ne lisent pas la Bible, alors je ne vais quand même pas vous donner les références pour aller lire sur Internet ou dans le Livre de Mormon des choses. Donc je vais vous les lire moi-même, vous allez les écouter, comme ça vous allez apprendre quelque chose. Et quand on vous parlera au sujet des Mormons, vous saurez de quoi il en retourne parce que vous aurez entendu quelque chose qui n'est pas négatif à leur sujet. Parce que dans les milieux chrétiens, il y a beaucoup de négatifs qui circulent. Alors voici son histoire relatée en ses propres termes. Pendant cette période de grande agitation, mon esprit fut poussé à réfléchir sérieusement et à éprouver un grand malaise. Je me disais souvent, mais que faut-il faire? Lequel de tous ces partis a raison? Ces religions, lequel a raison? Ou ont-ils tous tort, autant qu'ils sont? Si l'un d'eux a raison, lequel est-ce et comment le saurais-je? Tandis que j'étais travaillé par les difficultés extrêmes causées par les disputes de ces partis zélateurs religieux, je lus un jour l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. » Il a lu ça, il avait entre 14 et 15 ans. Jamais, il écrit, jamais aucun passage de l'Écriture ne toucha le cœur d'un homme avec plus de puissance que celui-ci ne toucha alors le mien. Il me sembla qu'il pénétrait avec une grande force dans toutes les fibres de mon cœur. J'y pensais constamment, sachant que si quelqu'un avait besoin que Dieu lui donne la sagesse, c'était bien moi, car je ne savais que faire, et à moins de recevoir plus de sagesse que je n'en avais alors, je ne le saurais jamais, car les professeurs de religion des diverses confessions comprenaient si différemment les mêmes passages de l'Écriture que cela faisait perdre toute confiance de régler la question par un appel à la Bible. Vous comprenez bien? On en est encore au même point aujourd'hui. Vous prenez toutes les confessions religieuses, elles se réclament toutes de la Bible. Elles disent c'est biblique, ce que je dis est biblique. Et puis elles disent quand même toutes des choses très différentes au sujet des mêmes choses. Donc la Bible par elle-même, on ne peut pas s'appuyer sur elle pour savoir où est la vérité. Il faut le secours du Saint-Esprit, de la sagesse de Dieu. Enfin, il dit, j'en vins à la conclusion que je devais ou bien rester dans les ténèbres et la confusion, ou bien suivre le conseil de Jacques, c'est-à-dire demander à Dieu. Je me décidai finalement de demander à Dieu, concluant que s'il donnait la sagesse à ceux qui en manquaient, et la donnait libéralement et sans faire de reproches, je pouvais bien essayer. Ainsi donc, mettant à exécution ma détermination de demander à Dieu, je me retirai dans les bois pour tenter l'expérience. C'était le matin d'une belle claire journée du début du printemps de 1820. C'était la première fois de ma vie que je tentais une chose pareille, car au milieu de toutes mes anxiétés, je n'avais encore jamais essayé de prier à haute voix. Après m'être retiré à l'endroit où je m'étais proposé au préalable de me rendre, ayant regardé autour de moi et me voyant seul, je m'agenouillai et me mis à exprimer à Dieu les désirs de mon cœur. À peine avais-je commencé que je fus saisi par une puissance qui me domina entièrement et qui eut sur moi une influence si étonnante que ma langue fut liée de sorte que je ne pouvais pas parler. Des ténèbres épaisses m'environnèrent et il me sembla à un moment que j'étais condamné à une destruction soudaine. Mais comme je luttais de toutes mes forces pour implorer Dieu de me délivrer de la puissance de cet ennemi qui m'avait saisi, et au moment même où j'étais prêt à sombrer dans le désespoir et à m'abandonner à la destruction, non à un anéantissement imaginaire, mais à la puissance d'un être réel du monde invisible qui possédait une puissance étonnante, comme je n'en avais encore jamais senti de pareil, juste à cet instant, de grande alarme, je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière plus brillante que le soleil descendre peu à peu jusqu'à tomber sur moi. À peine est-elle apparue que je me suis senti délivré de l'ennemi qui m'enserrait. Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Mon but, en allant interroger le Seigneur, était de savoir laquelle des confessions avait raison, afin de savoir à laquelle je devais me joindre. C'est pourquoi, dès que je fus assez maître de moi pour pouvoir parler, je demandai au personnage qui se tenait au-dessus de moi dans la lumière laquelle de toutes les confessions avait raison, car à l'époque, il ne m'était jamais venu à l'idée qu'elles étaient toutes dans l'erreur, et à laquelle je devais me joindre. Il me fut répondu de ne me joindre à aucune, car elles étaient toutes dans l'erreur, et le personnage qui me parlait dit que tout leur credo était une abomination à ses yeux, et ses docteurs étaient tous corrompus. Il disait qu'ils s'approchent de moi des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils enseignent pour doctrine des commandements d'hommes, ayant une forme de piété, mais ils en nient la puissance. Il me défendit de nouveau de me joindre à aucune d'elles, et me dit encore beaucoup d'autres choses que je ne puis écrire maintenant. Quand je revins à moi, j'étais couché sur le dos, regardant au ciel. Lorsque la lumière eut disparu, je demeurai sans force, mais je ne tardai pas à récupérer dans une certaine mesure, et je rentrai chez moi. Je m'aperçus bientôt que le fait de raconter mon histoire m'avait beaucoup nui auprès des adeptes des autres confessions et était la cause d'une grande persécution qui allait croissant. Et quoique je fusse un garçon obscur, c'est-à-dire insignifiant, de 14-15 ans à peine, et que ma situation dans la vie fut de nature à faire de moi un garçon sans importance dans ce monde, pourtant, des hommes haut placés me remarquèrent suffisamment pour exciter l'opinion publique contre moi et provoquer une violente persécution. Et ce fut une chose commune chez toutes les confessions, toutes s'unirent pour me persécuter. Je me fis sérieusement la réflexion, alors que je l'ai souvent faite depuis, qu'il est bien étrange qu'un garçon obscur comme moi, d'un peu plus de 14 ans, qui de surcroît était condamné à la nécessité de gagner maigrement sa vie par son travail journalier, fut jugé assez important pour attirer l'attention des grands des confessions les plus populaires du jour, et ce, au point de susciter chez eux l'esprit de persécution et d'insulte le plus violent. Mais aussi étrange que cela fut, il en était ainsi, et ce fut souvent une cause de grand chagrin pour moi. Cependant, il ne restait pas moins un fait que j'avais eu une vision. J'ai pensé depuis que je devais ressentir plus ou moins la même chose que Paul quand il se défendit devant le roi Agrippa et qu'il raconta sa vision qu'il avait eue lorsqu'il avait aperçu une lumière et entendu une voix. Et cependant, il y en eut peu qui le crurent. Les uns dirent qu'il était malhonnête, d'autres dirent qu'il était fou et il fut ridiculisé et insulté. Mais tout cela ne détruisait pas la réalité de sa vision. Il avait eu une vision, il le savait, et toutes les persécutions sous le ciel ne pouvaient faire qu'il n'en fût autrement. Et quand bien même on le persécuterait à mort, il savait néanmoins et saurait jusqu'à son dernier soupir qu'il avait vu une lumière et entendu une voix qui lui parlait, et rien au monde n'aurait pu le faire penser ou croire autrement. Car j'avais eu une vision, je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier ni ne l'osais. Il en était donc de même pour moi. J'avais réellement vu une lumière et au milieu de cette lumière, je vis deux personnages. Et ils me parlaient réellement. Et quoique je fusse haï et persécuté pour avoir dit que j'avais eu cette vision, cependant c'était la vérité. Et tandis qu'on me persécutait, qu'on m'insultait, qu'on me disait faussement toutes sortes de mal contre moi, et pour l'avoir raconté, je fus amené à me dire à mon cœur, mais pourquoi me persécuter parce que j'ai dit la vérité? J'ai réellement eu une vision, et qui suis-je pour résister à Dieu? Et pourquoi le monde pense-t-il me faire renier ce que j'ai vraiment vu? Car j'avais eu une vision, je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier, ni ne l'osais. Du moins, je savais qu'en le faisant, s'il niait la vision, j'offensais Dieu, et je tomberais sous la condamnation. C'est sûr que si Dieu nous donne une vision et qu'on le nie, c'est grave. Je savais donc à quoi m'en tenir en ce qui concernait le monde sectaire. Voilà, maintenant il était au clair. Il n'était pas de mon devoir de me joindre à l'une d'elles, mais de rester comme j'étais, jusqu'à ce que je reçusse d'autres directives. J'avais découvert que le témoignage de Jacques était vrai, que quelqu'un qui manquait de sagesse pouvait la demander à Dieu et l'obtenir sans qu'il lui fût fait de reproche. Il avait 14-15 ans. Je continuais à vaquer à mes occupations ordinaires dans la vie jusqu'au 21 septembre 1823, subissant constamment de dures persécutions de la part de toutes sortes de gens religieux et irréligieux, parce que je continuais à affirmer que j'avais eu une vision. Pendant la période qui s'écoula entre le moment où j'eus la vision et l'année 1823, alors qu'il m'avait été défendu de me joindre à aucune de ces confessions religieuses de l'époque, et que j'étais très jeune et persécuté par ceux qui auraient dû être mes amis et me traiter avec bonté, et qui, s'ils pensaient que je m'abusais, auraient dû essayer de me ramener d'une manière convenable et affectueuse, je fus abandonné à toutes sortes de tentations. Et fréquentant toutes sortes de milieux, je tombais fréquemment dans beaucoup d'erreurs insensées et manifestais les faiblesses de la jeunesse et les imperfections de la nature humaine, ce qui, j'ai le regret de le dire, m'entraîna dans diverses tentations offensantes aux yeux de Dieu. Bien que je fasse cette confession, il ne faut pas penser que je me rendis coupable d'avoir péché gravement ou par méchanceté. Il n'a jamais été de ma nature d'être enclin à commettre de tels péchés. Le soir du 21 septembre précité, après m'être mis au lit pour la nuit, je commençai à prier et à supplier le Dieu Tout-Puissant de me pardonner tous mes péchés et toutes mes sottises, et aussi de m'accorder une manifestation pour que je connusse mon état et ma situation vis-à-vis de lui, car j'avais la pleine assurance d'obtenir une manifestation divine comme j'en avais eu une précédemment. Tandis que j'étais ainsi occupé à invoquer Dieu, je m'aperçus qu'une lumière apparaissait dans ma chambre. Elle s'accrut jusqu'à ce que la chambre fût plus claire qu'à l'heure de midi. Et tout à coup, un personnage apparut à mon chevet. Il se tenait dans les airs, car ses pieds ne touchaient pas le sol. Il était vêtu d'une tunique ample, de la plus exquise blancheur, d'une blancheur qui surpassait tout ce que j'avais jamais vu de terrestre. Et je ne crois pas que quelque chose de terrestre puisse être rendu aussi extraordinairement blanc et brillant. Il avait les mains nues, les bras aussi, un peu au-dessus des poignets. Il avait également les pieds nus et les jambes aussi, un peu au-dessus des chevilles. La tête et le cou étaient nus également. Je pus découvrir qu'il n'avait d'autres vêtements que cette tunique, celle-ci étant ouverte, de sorte que je pouvais voir sa poitrine. Non seulement sa tunique était extrêmement blanche, mais toute sa personne était glorieuse au-delà de toute description et son visage était véritablement comme l'éclair. La chambre était extraordinairement claire, mais pas aussi brillante que dans le voisinage immédiat de sa personne. D'abord, je fus effrayé de le voir, mais la crainte me quitta bientôt. Il m'appela par mon nom et me dit qu'il était un messager envoyé de la présence de Dieu vers moi et que son nom était Moroni, que Dieu avait une œuvre à me faire accomplir et que mon nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, familles et langues et qu'on en dirait du bien et du mal parmi tous les peuples. Il dit qu'il existait, déposé en lieu sûr, un livre écrit sur des plaques d'or donnant l'histoire des anciens habitants de ce continent et la source, donc d'Amérique, et la source dont ils étaient issus. Il dit aussi qu'il contenait la plénitude de l'Évangile éternel telle qu'elle avait été donnée par le Sauveur à ses anciens habitants. En outre, que deux pierres contenues dans les arcs d'argent et ces pierres fixées à un pectoral constituaient ce qu'on appelle l'urim et le thummim, étaient déposées avec les plaques, que la possession et l'utilisation de ces pierres étaient ce qui faisait les voyants dans les temps anciens ou passés, et que Dieu les avait préparées en vue de la traduction du livre. Après m'avoir dit ces choses, il commença à citer les prophéties de l'Ancien Testament. Il cita tout d'abord une partie du troisième chapitre de Malachie, et il cita aussi le quatrième au dernier chapitre de cette même prophétie, avec toutefois une légère variante de ce qui se trouve dans nos Bibles. Au lieu de citer le premier verset tel qu'il apparaît dans nos Bibles, il le cita de cette façon. « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, car ceux qui viennent les brûleront, dit l'Éternel des armées, et ils ne leur laisseront ni racines ni rameaux. » Je vous rappelle que ce n'est pas extraordinaire que cet ange ait cité les Écritures de façon différente qu'elles sont dans la Bible. Puisque si vous prenez même l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre ou n'importe quel apôtre qui cite l'Ancien Testament, il le cite de façon aussi différente, légèrement différente, on l'a vu déjà dans une de mes prédications précédentes. Ce n'est pas du mot à mot, mais l'esprit est là, ça veut dire la même chose, même si ce n'est pas du mot à mot. Il cita en outre le cinquième verset comme suit. Voici, je vous révélerai la prêtrise de la main d'Élie. Je vous révélerai la prêtrise de la main d'Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il cita aussi le verset suivant d'une manière différente. Et il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites au Père, et le cœur des enfants se tournera vers leur Père. S'il n'en était pas ainsi, la terre serait entièrement dévastée à sa venue. En plus de ceci, il cita le 11e chapitre d'Ésaïe, disant qu'il était sur le point de s'accomplir. Il cita aussi le 3e chapitre des Actes, le 22e et 23e verset. C'est là où il est dit qu'il y aura le rétablissement de toutes choses. Tel qu'il se trouve dans notre Nouveau Testament, il dit que ce prophète était le Christ, mais que le jour n'était pas encore venu où ceux qui ne voudraient pas entendre sa voix seraient retranchés de parmi le peuple, mais qu'il viendrait bientôt. Il cita aussi le 3e chapitre de Joël, du 1er verset au 5e. Il dit aussi que cela n'était pas encore accompli, mais le serait bientôt. Il déclara en outre que la totalité des païens allait bientôt entrer. Il cita beaucoup d'autres passages des Écritures et donna beaucoup d'explications qui ne peuvent être mentionnées ici. Il me dit encore que lorsque j'aurai reçu les plaques dont il avait parlé, car le temps où je les obtiendrai n'était pas encore accompli, je ne devais les montrer à personne, pas plus que le pectoral avec l'urim et le thummim, sauf à ceux qui me seraient commandés de les montrer. Si je désobéissais, je serais détruit. Tandis qu'il conversait avec moi au sujet des plaques, une vision s'ouvrit à mon esprit de sorte que je pus voir le lieu où les plaques étaient déposées, et cela si clairement et si distinctement que je le reconnus quand je m'y rendis. Après cette communication, je vis la lumière qui remplissait la chambre commencer à se rassembler immédiatement autour de la personne de celui qui m'avait parlé, et elle continua à se rapprocher de lui jusqu'à ce que la chambre fût de nouveau laissée dans l'obscurité, sauf juste autour de lui, et tout à coup, je vis comme un passage ouvert directement vers le ciel. Il y monta jusqu'à disparaître entièrement, et la chambre fut de nouveau comme elle était avant que la lumière céleste eût fait son apparition. Je méditais dans mon lit sur la singularité de cette scène, très étonné de ce que m'avait dit cet extraordinaire messager, quand, au milieu de ma méditation, je m'aperçus soudain que ma chambre recommençait à s'éclairer, et en un instant, pour ainsi dire, le même messager céleste fut de nouveau à mon chevet, et il se mit à me raconter exactement les mêmes choses que lors de sa première visite, sans la moindre variation. Cela fait, il m'annonça que de grands jugements venaient sur la terre, avec des grandes désolations par la famine, l'épée et la peste, et que ces jugements pénibles s'abattraient sur la terre dans cette génération. Après avoir dit ces choses, il remonta comme auparavant. J'avais maintenant l'esprit si profondément impressionné que le sommeil avait fui mes yeux et que je restais couché, accablé d'étonnement de ce que j'avais vu et entendu tout à la fois. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand je vis de nouveau le même messager à mon chevet et l'entendis de nouveau me répéter et me redire les mêmes choses qu'avant. Et il ajouta un avertissement à mon intention, disant que Satan essayerait de me tenter, à cause de l'indigence de la famille de mon père, d'aller chercher les plaques dans le but de m'enrichir. Il me le défendit, me disant que je ne devais avoir d'autres objets en vue en recevant ces plaques que de glorifier Dieu. Je ne devais me laisser influencer par aucun autre motif que celui d'édifier son royaume, sinon je ne pourrais les recevoir. Après cette troisième visite, il remonta au ciel comme avant, me laissant de nouveau réfléchir sur l'étrangeté de ce qui venait de m'arriver. À ce moment, presque aussitôt, après que le messager céleste fut remonté pour la troisième fois, le coq chanta et je vis que le jour était proche, de sorte que nos entretiens avaient dû remplir toute cette nuit-là. Peu après, je me levai de mon lit et je me rendis, comme d'habitude, aux travaux nécessaires du jour. Mais en tentant de travailler comme les autres fois, je m'aperçus que mes forces étaient si épuisées que j'étais incapable de rien faire. Mon père, qui travaillait avec moi, vit que je n'étais pas bien et me dit de rentrer. Je me mis en route dans l'intention de me diriger vers la maison, mais comme j'essayais de passer la clôture du champ où nous étions, les forces me manquèrent tout à fait. Je tombai impuissant sur le sol et perdis un moment complètement conscience. La première chose dont je me souviens, c'est d'une voix qui me parlait et qui m'appelait par mon nom. Je levai les yeux et je vis le même messager debout au-dessus de ma tête, entouré de lumière comme précédemment. Il me répéta alors tout ce qu'il m'avait dit la nuit d'avant et me commanda d'aller trouver mon père et de lui parler de la vision que j'avais eue et des commandements que j'avais reçus. J'obéis. Je retournai vers mon père dans le champ et je lui répétai tout. Il me répondit que cela venait de Dieu et me dit d'aller faire ce que le messager commandait. Je quittai le champ pour me rendre au lieu où le messager m'avait dit que les plaques étaient déposées. Et grâce à la netteté de la vision que j'avais eue à son sujet, je reconnus le lieu dès que j'y arrivais. Tout près du village de Manchester, dans le comté d'Ontario, New York, se trouve une colline de dimension considérable, la plus élevée de toutes celles du voisinage. Sur le côté ouest de cette colline, non loin du sommet, sous une pierre de grande dimension, se trouvaient des plaques déposées dans une boîte de pierre. Cette pierre était épaisse et arrondie au milieu de la face supérieure et plus mince vers les bords, de sorte que la partie du milieu en était visible au-dessus du sol, tandis que les bords tout autour étaient recouverts de terre. Ayant enlevé la terre, je me procurai un levier que je glissai sous le bord de la pierre et d'un petit effort, je la soulevai. Je regardai à l'intérieur et je vis, en effet, les plaques, l'urim, le thummim, le pectoral, comme le messager l'avait déclaré. On avait formé la boîte qui les refermait en assemblant des pierres dans une sorte de ciment. Au fond de la boîte, deux pierres étaient posées perpendiculairement aux côtés de la boîte et sur ces pierres étaient les plaques et les autres objets. Je fis une tentative pour les sortir, mais le messager me le défendit et m'informa de nouveau que le moment de les faire paraître n'était pas encore arrivé, ni ne le serait avant 4 années à partir de ce jour-là. Mais il me dit de revenir à cet endroit dans 1 an exactement, comptant à partir de ce jour, qu'il m'y rencontrerait, de continuer ainsi jusqu'à ce que fût venu le moment d'obtenir les plaques. En conséquence, comme cela m'avait été commandé, j'y allais à la fin de chaque année. J'y trouvais à chaque fois le même messager et je reçus à chacun de nos entretiens des instructions et des informations sur ce que le Seigneur allait faire et sur la manière dont son royaume devait être dirigé dans les derniers jours. Comme les moyens de mon père étaient très limités, nous étions obligés de travailler de nos mains, nous louant à la journée ou autrement, comme nous en trouvions l'occasion, tantôt nous étions à la maison, tantôt au loin, et par travail continuel, nous parvenions à mener une existence confortable. Enfin, le moment de recevoir les plaques, l'urim, le thummim et le pectoral, arriva. Le 22 septembre 1827, je me rendis, comme d'habitude, à la fin d'une nouvelle année, au lieu où ils étaient déposés, et le même messager céleste me les remit avec cette consigne que j'en serais responsable, que si je les perdais par insouciance ou négligence de ma part, je serais retranché, mais que si j'employais tous mes efforts à les conserver jusqu'à ce que lui, le messager, vînt les réclamer, il serait protégé. Je découvris bientôt la raison pour laquelle j'avais reçu la consigne si stricte de les garder en sûreté, et pourquoi le messager avait dit que, quand j'aurais fait ce qui était exigé de moi, il les réclamerait. En effet, aussitôt que l'on sut que je les avais, les efforts les plus acharnés furent déployés pour me les enlever. On eut recours dans ce but à toutes les stratagèmes qu'on peut imaginer. La persécution devint plus violente et plus acharnée qu'avant, et des multitudes étaient continuellement aux aguets pour me les enlever si possible. Mais par la sagesse de Dieu, ils restèrent en sécurité entre mes mains jusqu'à ce que j'eus accompli par eux ce qui était requis de moi. Lorsque, selon ce qui avait été convenu, le messager les réclama, je les lui remis, et c'est lui qui en a la garde jusqu'à ce jour, 2 mai 1830. Le 5 avril 1829, Olivier Cordery vint chez moi. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il me déclara que, comme il enseignait à l'école du quartier où mon père résidait, et comme mon père était un de ceux qui envoyaient leurs enfants à cette école, il avait pris quelque temps pension chez lui. Pendant qu'il y était, la famille lui raconta les circonstances dans lesquelles j'avais reçu les plaques, à la suite de quoi il était venu me trouver pour me poser des questions à ce sujet. 2 jours après l'arrivée de M. Cordery, le 7 avril, je commençais la traduction du livre de Mormon et il se mit à écrire pour moi. En avril 1829, Olivier Cordery, lui servant de secrétaire, Joseph Smith, commença la traduction du livre de Mormon par le don et le pouvoir de Dieu. Lorsque Joseph eut terminé, d'autres personnes eurent le droit de voir les plaques d'or. Ses témoins ont également écrit leur témoignage, car toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins selon 2 Corinthiens 13, 1. Voilà, j'arrête ma lecture là ce soir. je voulais vous dire qui était Joseph Smith et qu'est-ce qui lui est arrivé. Vous en savez les grandes lignes. Maintenant, les prochains vendredis, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est que ce livre de Mormon, qu'est-ce que c'est ces plaques, qu'est-ce qui est écrit dessus, qui les avait écrits, qu'est-ce que c'était ces gens, qui étaient ces gens qui avaient écrit ces plaques et pourquoi elles avaient été cachées là, dans quel but. Simplement, je voudrais vous dire en deux mots, avant qu'on arrête, que Dieu fait bien les choses. Dieu a un peuple qui s'est choisi, les Juifs. Et 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ, Dieu a parlé à un homme qui s'appelait Léhi en Israël et il lui a commandé de partir avec toute sa famille, de se faire des bateaux et de partir et qu'il les conduirait. Il les a conduits et ils sont arrivés sur ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire de l'Amérique. C'était 600 ans avant Jésus-Christ. Cette famille a grandi, ils se sont multipliés, ils sont devenus en principalement deux peuples, ils se sont chicanés, ils se sont aimés, ils ont pleuré, ils ont ri, ils ont vécu des centaines d'années et ils ont eu parmi eux des serviteurs de Dieu, des prophètes qui ont annoncé la venue du Messie qui allait naître et qui allait donner sa vie afin de pouvoir nous racheter de nos péchés. Tout ça se passait sur le continent américain, c'était des Juifs qui étaient partis 600 ans avant Jésus-Christ là-bas. Vous le croyez, vous ne le croyez pas. Moi j'ai douté au début, et puis, bon, je vous expliquerai mon cheminement. Maintenant réfléchissez. Quand Jésus, juste avant de partir, a rassemblé les siens, il leur a dit, « Maintenant j'ai une autre bergerie, j'ai des brebis dans une autre bergerie, il faut que j'aille, il faut qu'elles entendent ma voix. » Vous vous rappelez de ce verset? Alors, dans les églises, on nous dit, voilà, cette autre bergerie, ben, c'est nous, les non-juifs. Mais en fait, on n'a jamais entendu sa voix. On a entendu la voix des apôtres. Vous me direz, oh Michel, tu chipotes, tu joues sous les mots comme d'habitude. Non, 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 les mots ont une importance. On n'a jamais entendu vraiment sa voix nous enseigner, on a entendu ses envoyés, ses apôtres, ses serviteurs. Par contre, d'après le livre de Mormon, Jésus-Christ, après avoir quitté les apôtres en Israël, en montant donc, dans ce que nous appelons l'ascension, il est allé s'asseoir à la droite du Père, il est descendu sur le continent américain et il a enseigné ce peuple juif qui était là-bas depuis 600 ans et il leur a dit des choses qu'il avait déjà dites en Israël. Et il y a eu tout un enseignement, et cela, c'est justement ces choses qui sont écrites, c'est une partie des choses qui sont écrites dans le livre de Mormon, et qui forment ce que j'ai appelé dernièrement, dans la prédication précédente, l'évangile éternel, c'est-à-dire, c'est la révélation pour le rétablissement d'absolument toute chose, c'est-à-dire d'un évangile éternel, pas l'évangile simplement d'il y a 2000 ans, mais l'évangile éternel de Jésus-Christ qui, lui, est éternel. On y croit, on n'y croit pas, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai étudié, j'ai cherché, j'ai prié et je peux dire que j'ai un témoignage dans mon cœur que ces choses sont vraies. Priez le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le témoignage afin de savoir si ces choses sont vraies. Si vous priez avec une bonne intention, si vous priez dans le but de savoir si c'est vrai ou faux, Dieu vous parlera. Si vous priez dans le but de fouiller afin de trouver des erreurs, eh bien, ce n'est pas une bonne intention. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Faites attention à votre façon de prier. Vous savez, dans les églises, on nous raconte des histoires. On nous dit, voilà, la sœur un tel a eu une vision, elle est allée en enfer, elle a vu là-bas Michael Jackson, etc., etc., etc. Des bouquins sont écrits et c'est vendu dans les librairies chrétiennes et les chrétiens s'arrachent ces choses. Ils y croient. Mais comment se fait-il qu'ils croient ça alors que la Bible dit expressément que pour le moment, il n'y a personne en enfer. Les deux premiers qui seront jetés en enfer, c'est le faux prophète et l'antichrist. Ensuite, ce sera Satan. Pour le moment, il n'y a personne en enfer. Comment se fait-il que les chrétiens croient ces visions qui racontent que Michael Jackson, le pape et d'autres sont en enfer et qu'ils souffrent et qu'ils brûlent. Et pourquoi est-ce qu'ils croient des sottises comme ça? C'est anti-biblique. Il faut croire les choses qui sont dans la Bible, pas ces idioties qu'on vous raconte à gauche, à droite. Alors vous allez me dire, mais Michel, qu'est-ce qui nous prouve que ce que tu nous dis ce soir, c'est pas une idiotie? Ben, alors justement, c'est là. Premièrement, est-ce que ça contredit les Écritures? Est-ce que c'est blasphématoire? Est-ce que ça force au péché? Est-ce que ça glorifie Dieu? Il faut que vous demandiez, vous, à Dieu, le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vous sera envoyé pour vous éclairer et vous diriger dans toute la vérité. Mais encore faut-il connaître au moins un peu les Écritures saintes que vous avez, vous, votre Bible. Je suis en train de vous parler du livre de Mormon, mais la plupart des chrétiens ne connaissent déjà même pas leur Bible. Même les pasteurs, je suis désolé de le dire, ils vont faire 6 mois de théologie, paraît-il. Ce n'est pas de la théologie qu'ils font, je suis désolé. Leur école biblique qui dure 2 mois, puis après ils partent en vacances, et puis ils reviennent 2 mois, et puis enfin ça dure 3 ans en tout, mais en fait si vous faites le calcul, ils sont allés quoi? Allez, 7, 8, 10 mois. Bon, la théologie, c'est du bricolage, c'est pas de la théologie, c'est des bases qu'on leur donne, mais c'est pas de la théologie. Il faut être sérieux. Les théologiens protestants ou catholiques sont des érudits. Et les évangéliques, on est vraiment pauvres dans ce domaine-là, de la connaissance. Alors, soyons un peu humbles et ayons recours aux Écritures que nous avons, la Sainte Bible, qui n'est pas parfaite, comme je vous l'expliquais dans la prédication de la pierre de Daniel 2, mais qui est quand même un témoignage puissant de Dieu, parce que quand on met en pratique ce qui est écrit dans la Bible, ça marche. Je peux en témoigner. J'ai vu des milliers de miracles, j'ai vu des guérisons extraordinaires, j'ai vu des morts ressuscités, même un à Paris. On n'a encore pas rendu témoignage de cela officiellement, parce que c'était un jeune homme qui n'était pas majeur. On attend qu'il soit majeur pour pouvoir témoigner de cela, parce que sinon ses parents s'opposeraient à la chose, parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ils sont bouddhistes. Mais n'empêche que c'est Jésus qui l'a ramené à la vie au bout de, je crois, je ne me rappelle plus si c'est 3 jours ou 5 jours. Des chrétiens sont témoins de la chose. Bon, j'ai vu tellement de choses extraordinaires. Je sais de quoi je parle quand je parle de la puissance de Jésus-Christ vivant. Et je sais aussi de quoi je parle quand je parle des Écritures. Je ne prétends pas tout connaître, mais ce que je connais, je le connais bien. Et quand je le mets en pratique, ça marche. Je peux vous dire, ça marche. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Alors maintenant, évidemment, on peut toujours dire, oui, on reconnaît l'arbre à son fruit, les Mormons, ils ne sont pas parfaits. Ah ben non, ça c'est sûr. Et vous connaissez une église parfaite, vous? Eh bien écoutez, franchement, en regardant un peu autour de moi, ça fait quand même maintenant depuis 1968 que je traîne mes guêtres dans les milieux évangéliques et que j'ai visité des pays, des dizaines de pays en prêchant un peu partout, dans toutes sortes de dénominations chrétiennes. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pasteurs français qui ont prêché dans autant de dénominations chrétiennes que moi. Ici en France, ben, je peux vous dire, s'il fallait vraiment choisir, c'est certainement pas les pentecôtistes que je choisirais, mais plutôt les Mormons. Ce sont des gens équilibrés, ce sont des gens gentils, ce sont des gens honnêtes, ce sont des gens sensés, équilibrés. Ils ont les mêmes dons que chez les pentecôtistes, les mêmes dons, mais ils ne font pas un tapage ici Paris avec. Quand je dis un tapage ici Paris, je pourrais dire gala ou je ne sais quoi. C'est une espèce de pub plus ou moins malsaine. Non, ils sont discrets. Ils sont discrets, mais ils sont très efficaces. Voilà, je voulais partager ça avec vous pour vous dire, c'est pas pour vous embrigader dans une religion. Quelqu'un que je connais bien a dit, oui, tu veux faire de nous des Mormons. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais je veux que vous sachiez, que vous connaissiez, afin qu'au jour du jugement, vous ne puissiez pas dire, personne ne m'a dit. Moi, je vous l'ai dit, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à y voir clair. Voilà, je prie pour vous, que Dieu vous garde. Seigneur, je te prie de garder mes frères et sœurs, de garder chacun, chacune, de les aider à comprendre qu'ils n'aient pas peur, il n'y a pas de quoi avoir peur. Tu as beaucoup plus de force, mon Dieu, pour diriger les gens dans la vérité, que Satan en a pour nous conduire dans l'erreur. S'ils ont un cœur pur, eh bien, ils connaîtront la vérité. Ceux qui connaissent Dieu, ce sont ceux qui ont le cœur pur. Je te prie, mon Dieu, que tu te révèles à ceux qui ont le cœur pur. Et puis ceux qui cherchent des histoires, eh bien, qui continuent à chercher des histoires, bénis-les quand même, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen.
Amen.
Amen. À bientôt. Amen. Au revoir, mes frères et sœurs. À vendredi, à dimanche. Dimanche, ça sera une prédication. Ce ne sera pas un enseignement. Ce sera une prédication. Au revoir.